Lorsque la première bombe atomique explose au-dessus de San Francisco, Jim Thompson veut croire qu'un avenir existe encore. Hélas, aux quatre coins du globe, une guerre nucléaire totale se propage. L'un après l'autre, tous les pays sont rayés de la carte. Le pire des scénarios est devenu réalité. Chine, Égypte, France, États-Unis. Séparés par des milliers de kilomètres, quatre adolescents au destin mystérieusement lié s'efforcent d'échapper à l'inéluctable et de rallier une base secrète du Groenland. Mais peut-on survivre à la fin du monde ? Hafsa, jeune égyptienne, ex-islamiste rescapée de son attentat suicide, elle est devenue la protégée de sa cible, Mark Thompson, sénateur américain, qui l'emmène de force jusqu'à la base nord du Groenland. Hier encore, je me voyais périr sur mon lit d'hôpital. Et voilà qu'aujourd'hui, dans les derniers instants de l'humanité sur Terre, l'être éternel détient encore entre ses mains le souffle de mon destin. L'ange de la mort n'est pas venu réclamer mon âme. Maintes et maintes fois, je me suis dit, je ne mérite pas de continuer à vivre. J'ai fait des choses horribles. Pourtant, je respire toujours grâce à M. Thompson qui a payé les soins pour que je survive. Et c'est lui encore qui, sur mon chemin, dans l'Apocalypse, lui encore que Dieu a envoyé à mes côtés comme un signe. Les uns derrière les autres, nous avançons vers cette troublante lumière. Nous ne ressentons ni la peur, ni le froid, même si la fin du monde se dessine derrière nous. Depuis le haut de la colline, la luminosité s'intensifie à mesure que l'on approche d'elle. Nos lèvres ne peuvent murmurer le moindre mot devant cet éclat majestueux. Même des milliers d'obstacles pour atteindre le sommet de cette montagne ne pourraient nous empêcher d'y parvenir, tant nous nous sentons protégés par une mystérieuse aura. Nous nous approchons au cœur de cette lumière. Une paix intérieure me saisit. Le souvenir de mes proches me traverse à l'esprit et je sens leur présence me porter. Ni brûlant, ni aveuglant, l'astre s'élève et nous dévoile un horizon de toute beauté s'étalant à l'infini. Quel paysage magique, avec ses lacs d'un bleu azur, ses arbres à travers lesquels on aperçoit des habitations. La vision d'oiseaux aux coloris multiples fait perler des larmes de bonheur sur nos joues. Même dans mes rêves les plus fous, jamais je n'ai imaginé un endroit si merveilleux. Des hommes, des femmes, des enfants de toutes origines nous font signe de venir vers eux. Cette fabuleuse lumière illumine des vallées plus incroyables les unes que les autres. Aucune poudre de neige n'apparaît, simplement des herbes verdoyantes et des fleurs aux coloris surréalistes. Comment un endroit si sublime, si vivant peut-il encore exister sur Terre après ces nébuleuses guerres aux quatre coins de la planète? Je ne peux y répondre, mais une chose est certaine. Le Créateur nous montre la voie. L'espoir ne s'éteint jamais, même si l'humain est de nature à tout détruire. Je me demande pour quelle raison ce lieu n'a pas reçu les émanations nucléaires. Toutes mes émotions réunies et mes songes apaisés me font penser que nous sommes au paradis. Sensation étrange pour moi qui, par mes actes impardonnables, ai causé tant de tort. Cela étant, Allah pardonne tout. Allah que je n'ai plus prié et que j'ai négligé ces derniers temps. D'une certaine façon, j'ai perdu la foi. J'étais une croyante repentie. Je ne pratique plus ma religion. Pour moi, Hafsa, fille de parents musulmans, née en Égypte, ce qui se passe à cet instant précis à l'autre bout du monde sur Terre est l'œuvre de Dieu. Mon désir était de retrouver ma famille, mon pays. Pour autant, je sais que cela n'est plus possible. Est-ce qu'ils sont au paradis? Je le souhaite. Est-ce ici le paradis? François, jeune Parisien miraculé, il assiste à la destruction de la capitale à quelques kilomètres de lui. Dans un dernier espoir, sans réfléchir, je pousse Elodie en arrière et nous basculons enlacés dans le bassin d'une fontaine. La vague de flammes et de cendres incandescentes passe au-dessus de nous, brûlant tout sur son passage. Je reste sous l'eau aussi longtemps que possible, en maintenant de force Elodie qui se débat pour remonter à l'air libre. Après plusieurs secondes qui paraissent durer une éternité, je refais surface. Elodie ! Elodie, parle-moi ! Elle ne respire plus. Je la sors de l'eau, la secoue. Elle reprend conscience, respire, recrache. Tous. On est où? Pourquoi il fait tout noir? On est où? T'as essayé de me noyer, François? François, parle-moi! La panique s'empare d'elle. Je la serre dans mes bras et la réconforte. Autour de nous, tout n'est que ruine et désolation. Des incendies dévorent la ville. Partir. Partir loin. Je récupère nos vêtements restés dans la voiture. J'aide Elodie à s'habiller et nous partons. Les rues sont jonchées de débris. Je comprends vite que toute circulation est impossible. Je regarde autour de nous. Comment faire? La Seine n'est pas loin. Un bateau? Pourquoi pas? Elodie ne voit plus rien. Je l'emmène jusqu'au quai en lui décrivant le triste spectacle. Un bateau? Pourquoi faire? Pour aller où, François? Tu es fou? Grishka, agriculteur à Severodvinsk, ville irradiée et désertée au nord de la Russie. Il survit aux côtés de son ami Vladimir, l'instituteur. Après l'explosion, les conséquences pour l'alimentation ont été terribles. Terre, eau, végétaux ont été irradiés. Toute mon exploitation agricole, toute ma ferme a été dévastée. Tout mon travail de ces dernières années réduit à néant. Se nourrir a vite été difficile pour les survivants. Vladimir a pu perdre ses fameux kilos en trop. Mais malgré sa bonne humeur et son optimisme, la maladie l'a rattrapé. Maux de tête, perte de cheveux, vertige. Et voilà qu'aujourd'hui, il ne sait plus très bien ce qu'il fait. Même si nous survivons, dans 20 ans, il n'y aura plus un habitant dans notre pays. Il n'y a déjà presque plus de femmes dans la région. Il n'y aura pas de descendance. Et les enfants qui naîtraient, ils seront dans quel état? C'est certainement mieux que notre race s'éteigne. « Ici, les quelques espèces d'animaux qui ont survécu aux radiations n'ont pas résisté à la chasse intense qui a suivi. Ça n'a pas duré. Aujourd'hui, ils sont tous immangeables. Et la famine fait rage. Dans les premiers temps après l'explosion, ce qui restait de gouvernement a proposé aux détenus d'être libérés en échange du travail dans la reconstruction. J'en ai accueilli dans ma ferme. Mais le chaos social a vite remplacé la réinsertion. Mort violente par maladie, assassinat, règlement de compte, viol, pillage. L'humanité est dans toute sa splendeur. Dans ces conditions extrêmes, à l'affût d'éventuels assaillants, Vladimir et moi résistons dans notre campement de fortune. Nous avions repoussé l'idée de repeupler le monde et repartir pour une civilisation sur de meilleures bases, sans nucléaire. Pour l'instant, seul compte la survie. Mais ce Chinois, croisé il y a quelques jours, a redonné un peu d'espoir à nos deux caboches ramollies. Petit à petit, nous reprenons des forces et nous faisons à l'idée de partir en quête de cette base secrète au Groenland. Accrochés à ce mythe, nous nous mettons à la recherche d'une embarcation adaptée au voyage. Nous récoltons et glanons le nécessaire, bouteilles de gaz, trépieds, casseroles, vivres, sans oublier de grosses réserves de vodka maison. Vladimir a pu remarquer que, comme pour les fruits, elle a le pouvoir de conserver les êtres humains. Durant les jours de préparation de notre périple, nous invitons tous les humains que nous croisons à se joindre à notre arche de Noé. C'est un balai de boiteux, d'estropiés, d'amaigris, de zombies, de chauves de tous âges qui nous accompagnent. 120 personnes au total, dont la moitié d'enfants, parfois beaucoup plus résistants que les adultes. Tout ce petit monde est entassé sur la grosse carcasse de ferraille. Jim. A fui la Californie avant l'explosion de la première bombe nucléaire. Il tente de rejoindre son père, sénateur américain, à la base nord que celui-ci lui a indiquée. À l'aéroport de Vancouver, où il retrouve le mystérieux Mike, une explosion survient. Enfoui sous un tas de débris, je me retrouve sonné. Mes oreilles sifflent, mes yeux me brûlent. La fumée se dissipe peu à peu, mes yeux s'ouvrent doucement. Autour de moi, tout me paraît irréel. Je découvre le genre de scène que je n'avais jamais vu que dans les films. Autour de moi, des corps gisent à terre. Quelques rescapés sont blessés, choqués. Quelques minutes se passent avant que je retrouve tous mes esprits. À quelques mètres de moi, j'aperçois Mike, avec qui j'ai discuté une heure avant l'explosion. Il a la jambe bloquée sous une poutre. J'accours à ses côtés afin de le dégager car le feu se propage dans l'aéroport. La poutre est trop lourde. Je voudrais m'enfuir, mais je repense à notre conversation. Mike pourrait m'être très utile pour mon voyage vers le Groenland. J'aperçois un chariot. Je cours le chercher et le ramène afin qu'il fasse levier sur la poutre. Il m'en faut quelques secondes pour dégager Mike. Ses blessures sont superficielles. Aussitôt, nous nous précipitons pour sortir de l'aéroport avant que tout s'effondre. Arrivé à l'entrée B, je constate que ma voiture n'a pas été touchée. Je bondis à l'intérieur et Mike me suit. Je mets le contact, démarre en trombe sans vraiment savoir où je vais. Après quelques kilomètres, je m'arrête sur le bas-côté pour réfléchir. La tête dans les mains, je me repasse l'explosion en boucle comme un sample de Tupac. Je suis perdu dans mes pensées. La voix de Mike me sort de mes réflexions macabres. Hypnotisé par toutes ces catastrophes, j'en avais presque oublié sa présence. Roule, me dit-il. Bah, pour aller où ? Il sort alors un petit ordinateur qui s'apparente à un GPS, clique et l'installe sur le tableau de bord face à lui. Il m'indique de suivre un itinéraire. Je démarre et m'exécute. Au bout de 2 heures de route, nous arrivons dans un port de pêche abandonné où même les poissons ont pris la tangente. Mike descend de la voiture et se dirige vers une vieille cabane de pêcheurs. Une fois à l'intérieur, il dégage une table et un vieux tapis qui dissimule une trappe. Il l'ouvre, me dit de le suivre et s'engouffre dans le sol. Arrivé en bas, il fait froid, sombre. Mike allume une lumière et je découvre un magnifique petit sous-marin. Mike me dit « Allez, on m'embarque direction le Groenland. » À bord, il fait bon vivre. Il y a des provisions et de quoi tenir un an tranquillement. Mike démarre l'engin et tapote sur le tableau de bord. Le sous-marin se met en route. « Allons boire un verre. » Il sort une bouteille de Jack Daniels, nous sert et lève son verre en me disant « À la vie ou à la mort ?» Nous trinquons, puis il se dirige vers un fauteuil, la bouteille à la main. Il prend une cigarette, une feuille et se met à rouler un joint de la taille d'un cigare. « J'en ai grand besoin, » me dit-il. Quelques minutes plus tard, la pièce est enfumée. Je ressens des effets bizarres. Il me tend le joint. Je lui dis que j'ai jamais fumé de ma vie. « Bah, c'est le moment de commencer, » me dit-il. Je tire une taffe et ma tête se met à tourner. « Tu sais, je connais bien ton père. »« Comment ça ?»« J'ai été son garde du corps pendant des années. Et maintenant, je travaille dans l'ombre pour lui. »« Il y a 2 semaines, il m'a envoyé un mail en me demandant de vous retrouver et de vous ramener auprès de lui. »« Toi, j'ai réussi. » Mais pour ta sœur et ton frère, je pense qu'il n'y a plus d'espoir. Bon, dormons. Demain, nous serons au Groenland. Diane. Champion international d'échecs, il a quitté la Chine et rejoint la base du Groenland par la Mongolie et la Russie, accompagné de Mei, orpheline de 5 ans, qui n'a pas survécu. Guidé par un espoir tout neuf, je marche sans réfléchir dans l'inconnu comme un explorateur qui découvre un territoire vierge. Mais je sens au fond de moi qu'il y aura une rencontre, une surprise. L'adrénaline et la peur me font trébucher sous la neige glacée. Je suis sur un nouveau terrain de jeu, un terrain vague. Ça me change des salles d'échecs clinquantes fréquentées à travers le monde. Tout à coup, un trio de renards arctiques s'approche de moi. Je pose le doigt sur la gâchette au cas où. Ils viennent vers moi, me reniflent et au final, m'adoptent. Nous faisons la route ensemble. Petit à petit, ils me font oublier Mei. 50 kilomètres plus loin, je vois derrière une colline blanche enneigée des taches noires. Il s'agit d'un village groenlandais. Rapidement, je pars à la rencontre des habitants pour leur annoncer la mauvaise nouvelle planétaire. Laissant mes trois magnifiques compagnons à quatre pattes, j'entre dans le village et poursuis mon chemin avec, dans une main, mon fusil, dans l'autre, l'ourson Winnie, la peluche de May. Stupéfait de voir un Chinois armé de la sorte, deux pêcheurs m'interpellent. Je leur explique que la planète prend feu, que ça a pété aux quatre coins du globe. Bien sûr, la communication est difficile, mais grâce à deux, trois croquis, ils finissent par comprendre la situation apocalyptique. Je leur fais part de mon désir de rejoindre la base secrète, lieu protégé au nord du pays. Ensuite, je suis accueilli chez le chef de village. Le temps d'organiser mon départ, les semaines passent. Et je fais la connaissance de Nouba, la fille cadette du chef. Chez elle, je perçois une sagesse, une humilité qui me touche profondément. Elle me propose de m'accompagner dans mon voyage. Évidemment, j'accepte. Nous quittons le village et marchons tous les deux pendant près d'un mois, sans découvrir la moindre base. Finalement, nous nous posons dans un village abandonné, mais à l'abri, en lieu sûr. Les jours passent, paisiblement. Moi, le survivant, suis-je fait pour une vie d'inuit, aux côtés de Nouba ? J'ai laissé la mort derrière moi. Et pour les échecs, on verra plus tard. Professeur Feng, chirurgien, père de Xian, décédé lors de l'explosion nucléaire de Pékin, il est devenu pur esprit flottant et a suivi son fils jusqu'au Groenland. Dehors, le silence domine l'étendue blanche et glaciale. Je ressens la plénitude surréelle contrastant avec nos ex-mégalopoles surpeuplées. Quelques autochtones, après avoir appris la terrible catastrophe, prennent contact avec la société hétéroclite et privilégiée de la base. Celle-ci contient des machines où la quasi-totalité des connaissances encyclopédiques et scientifiques sont stockées. J'entrevois un espoir de conciliation entre nature préservée et culture internationale à travers Eiki, 11 ans. Eiki suit son père à la chasse et à la pêche depuis l'âge de 7 ans. Je vois un petit être fragile, vif et curieux, ayant un pied dans les traditions ancestrales et l'autre dans les dernières technologies présentes au village. À l'école, l'institutrice avait demandé un jour à la classe ce que les enfants désiraient faire lorsqu'ils seraient grands. « Docteur, Miss Buckley, et pêcheur aussi. »« Très bien, Eiki. Dis-nous pourquoi. » « Je suis habile de mes mains et grand-mère connaît plein de remèdes qu'elle m'enseigne peu à peu. Et la pêche, pour être seule et loin du bruit. » Tout cela me réconforta. Je compris que ce petit avait reçu comme un don cet équilibre si dur à atteindre entre vieux et neuf, tradition et modernité.